Ici Francis Richard, nous sommes le 13 janvier 2011 et je vous parle de Suisse romande. Oskar Freisinger a déposé une motion demandant la sortie de la Suisse du FMI. En 1992, la Suisse rejoint le FMI. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pays du monde en sont membres, à l'instar de l'ONU. Ce qui veut dire que la Suisse ne peut faire que de la figuration au sein de ce machin financier. Certes, elle représente un groupe de 8 pays dont elle défend les intérêts au sein du conseil d'administration. Mais celui-ci est composé de 24 directeurs exécutifs, dont 5 sont nommés par les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, et les 19 autres élus par des groupes de plus petits pays tels que ceux que représente la Suisse. En outre, le groupe de pays que représente la Suisse en la personne du directeur exécutif René Weber, en poste depuis le 1er janvier 2010, ne pèse que 2,82% des voix, dont un peu plus de la moitié, soit 1,57%, reviennent à la Suisse. Autant dire « peanuts ». Le groupe est composé de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de la Pologne, de la République kirghize, de la Serbie, du Tadjikistan et du Turkménistan. Il serait intéressant de savoir comment un tel groupe, aussi hétéroclite, a bien pu être constitué et surtout pourquoi la Suisse en a pris la tête. Faute de mieux, sans doute. Il faut enfin préciser que les pourcentages de voix correspondent à peu de choses près aux quotes-parts versées par les différents pays membres comptabilisés en DTS, droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire dans une monnaie purement virtuelle et propre à l'institution, qui est un subtil panier garni à base de dollars, d'euros, de yens et de livres sterling. L'écart entre le pourcentage des quotes-parts et le pourcentage de voix provient de l'utilisation ou non de DTS par le pays membre. À quoi sert ce machin supranational où la loi des plus forts est de toute évidence la meilleure? Il sert à superviser le système monétaire international et à contrôler les politiques économiques et financières des pays membres, à assister techniquement les pays membres à faibles et moyens revenus dans l'administration de leurs économies, à prêter aux pays membres qui ont du mal à emprunter sur le marché des capitaux dans de bonnes conditions. Bref, c'est un machin interventionniste qui, en quelque sorte, gouverne le monde en redistribuant l'argent apporté au pot commun par les pays membres. Ce pot commun s'élève à 217,3 milliards de DTS. Si l'on en croit le site de la BNS, Banque Nationale Suisse, un DTS vaut 1,55 francs à fin octobre 2010 et la quote-part de la Suisse est de 3,46 milliards de DTS, soit 5,35 milliards de francs. En réalité, la BNS a déjà fourni au FMI un montant plus important que cette quote-part, soit un total de 10,62 milliards de francs, dont 1,71 milliard étaient utilisés à fin octobre. En outre, deux demandes de concours supplémentaires ont été faites au Parlement par le Conseil fédéral. 12,5 milliards de francs à titre de contribution extraordinaire aux ressources du FMI et 18 milliards de francs de lignes de crédit. Ces deux demandes ont été votées par le Conseil des États. Le Conseil national devrait les voter lors de sa session de printemps. C'est dans ce contexte qu'Oskar Freisinger a déposé sa motion numéro 10.4056 au Conseil national. Je cite « La Suisse sort du FMI et de la BM, Banque mondiale. En parallèle, le Conseil fédéral doit enquêter sur les coûts réels de notre participation. » Le Conseil fédéral est chargé de concrétiser ces deux demandes avant la fin de la présente législature, donc les élections fédérales du 13 octobre 2011, puis de diligenter toute poursuite pénale et civile utile au profit du souverain. À l'appui de cette motion, le conseiller national valaisan emploie 8 arguments frappants. 1. Le FMI et la BM violent la neutralité suisse en nous forçant à des actions politiques dirigées par les États-Unis. Ainsi, depuis que nous y sommes entrés, notre politique économique est devenue colonialiste et anti-développement, notamment dans les pays les plus pauvres et maintenant ceux voisins de l'Union européenne. 2. De plus, elles sont coûteuses et se basent toujours sur des statistiques douteuses, après avoir, par exemple, obligé la Suisse à vendre son or aux cours les plus bas et à changer notre constitution dans ce dessein. 3. FMI et BM font également le jeu économiquement malsain du maintien artificiel de l'euro et des diktats anticonstitutionnels de la Banque Centrale Européenne. 4. Par leur politique draconienne d'ajustement, SIC, du chômage, FMI et BM aggravent souvent les problèmes en entraînant des conséquences sociales dévastatrices et un accroissement de la pauvreté. 5. Ils veulent aussi maintenir et préserver les privilèges d'un système inefficace et ruineux. Création de fausses monnaies ex nihilo, comme le prouve notamment le prix Nobel Maurice Allais, par milliers de milliards, avec un système bancaire fractionnaire, menteur, gaspilleur, tricheur et voleur, aussi par des salaires, primes et bonus antisociaux. 6. FMI et BM visent dans leur propre déclaration un impôt, une monnaie et un gouvernement mondial unique, très dangereux pour nos libertés. Ils ne sont ni subsidiaires, ni fédéralistes. 7. Par ailleurs, ils ne sont pas du tout démocratiques, ni transparents, et contribuent à la corruption et aux fraudes, aussi en allouant des salaires et des frais trop élevés à nombre d'employés exagérés. Le népotisme y est monnaie courante. 8. Même le controversé keynésien, conseiller d'Obama, Joseph Stiglitz, notamment prix Nobel d'économie et vice-président de la Banque mondiale de 1997 à 2000, s'est attaqué au FMI dans un livre. Il l'accuse de privilégier les intérêts de son principal actionnaire, les États-Unis, avant ceux des pays en difficulté. Comme le dit Achille Tendon sur le site Le Carton Rouge, depuis que la Suisse siège au FMI, dans laquelle elle a été au départ la bienvenue, elle n'a pu faire que trois choses bien distinctes. 1. Siéger. 2. Payer. 3. Se taire. N'était-il pas temps de réagir ? Avant de quitter l'antenne, je rappelle à nos auditeurs que leurs réactions, leurs informations ou leurs commentaires sont les bienvenus et qu'ils peuvent nous les adresser par email en précisant seulement à quelle émission ils font référence. L'adresse email de la rédaction est radio-silence@wanadoo.fr. Je leur rappelle également qu'ils peuvent acquérir la carte annuelle d'amis de Radio Silence pour la modique somme de 20 euros. C'était Francis Richard qui vous parlait de Lausanne pour Radio Silence.